France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous Face. Au cours de ces dernières années, depuis l'avènement de la parentalité positive, parent est devenu un métier à temps plein, avec en ligne de mire l'objectif modeste de rendre heureuse et épanouie sa progéniture 24 heures sur 24, grâce à l'entremise non pas de la tante Artémise, mais d'une flopée de spécialistes en parentalité, coach, spécialistes en petite enfance, censés nous délivrer les clés pour réussir ce fameux métier de parents. Le problème, c'est que devenir un parent parfait engendre de la fatigue, de l'anxiété, de la peur, de la culpabilité, un mal-être permanent, quand on sait qu'il s'agit d'une tâche herculéenne, quasiment insurmontable, voire impossible. Alors, comment vraiment se libérer de ces injonctions à la parentalité idéale? Élément de réponse avec nos invités, le docteur Patrick Bensoussan et les journalistes Clara Georges et Benjamin Muller. Et vous, parvenez-vous à vous extraire de cette parentalité idéale? Quel regard portez-vous sur cette obsession de la parentalité parfaite? 01 45 24 7000, sans oublier de laisser message et note vocale sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous Fasse, Ali Rebéi.
S'il te plaît, Francis, allez, mon chéri, il faut que tu manges quelque chose. On a essayé les carottes, les pommes, les flocons d'avoine et les pêches, hein? Tu en aimes au moins un.
Loïs, tu veux savoir ce que ton fils a fait de mon laserdisc des yeux de Laura Mars? Et il a rasé la moquette avec mon rasoir électrique tout neuf.
Pardon, chérie. Je lui ai demandé très, très gentiment de ne pas jouer avec, mais il n'écoute rien. Je n'arrive pas à le faire obéir. J'ai lu les œuvres de Spock, de Piaget, des Annenberg et le langage des câlins. Et tous ces bouquins ne me servent à rien.
Ce qu'il lui faut, c'est un peu de discipline.
Ça irait beaucoup mieux si au moins il acceptait de manger un peu. Mais il gaspille tout ce que je lui donne. Je vais lui donner un petit morceau de chocolat.
Loïs, non! Il faut arrêter de faire ses quatre volontés tout le temps. J'en ai plus qu'assez d'avoir constamment le mauvais rôle parce que tu cèdes constamment à tous ses caprices.
Je comprends, je vais essayer.
Mais tu dis ça tout le temps et pourtant tu continues.
Je te promets d'être plus sévère avec lui.
Loïs et Al dans la série Malcolm qui ne parviennent pas à devenir des parents idéaux. Bonjour docteur Patrick Bensoussan, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre à Marseille et vous avez récemment publié « Parents, on vous prend pour des cons » chez RS. Bonjour Clara Georges.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, rédactrice en chef de la rubrique Intimité. Vous animez chaque semaine une newsletter, enfin vous envoyez une newsletter qui s'appelle « Daron Daronne ». Et « Daron Daronne », c'est aussi le titre de votre livre publié au Seuil. Bonjour Benjamin Muller.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste dans la matinale Bonjour sur TF1 et vous avez publié le dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé chez HarperCollins, sous-titré « N'écoutez pas les rabat-joie, être parent c'est aussi un bonheur ». C'est aussi votre leitmotiv, docteur Patrick Bensoussan, c'est aussi un bonheur d'être parent, parce que vous en avez assez, vous l'expliquez très bien dans votre livre, de tous ces prophètes de malheur qui réduisent la parentalité à un chemin de croix et qui mettent en avant un aspect doloriste de la parentalité.
Oui, enfin, tous ces prophètes de malheur, mais aussi tous ces prophètes de bonheur. Je crois qu'on peut être équitablement à évoquer les deux aspects, hein, parce qu'il y a un discours sur la parentalité qui va continuellement dans les deux champs. Hein. Soit tout est magique, tout est merveilleux, tout est extraordinaire, c'est la plus belle expérience de ma vie, soit, mon Dieu, si j'avais su, je serais pas venu, quoi, en gros.
Sur le sous-titre de votre livre, Benjamin Muller, « N'écoutez pas les rabat-joie, être parent, c'est aussi un bonheur ».
Oui, j'ai voulu essayer de mettre de la nuance, c'est-à-dire qu'effectivement, j'en ai eu un peu marre, moi, de ce double discours, où d'un côté, on nous disait « éducation positive, éducation bienveillante, jamais élever la voix », ou alors, à l'inverse, exactement ce que vient de dire le docteur. Je pense que, comme dans tous les sujets du monde, la vérité se trouve à la croisée des chemins, tout pile au milieu, c'est-à-dire que oui, c'est herculéen, comme vous disiez, c'est très dur, c'est physiquement dur, pour le couple, on mange, on va détailler, j'imagine, tout ça. Et c'est aussi le plus grand des bonheurs de la vie. Voilà, donc eh ben on fait avec ce qu'on peut, on vit sans sommeil, mais on vit en profitant quand même.
Clara Georges.
Oui, oui, bah, je suis d'accord. Donc, en fait, on va être tous d'accord, je pense, aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, au travers de cette chronique et de ce livre, je m'efforce d'esquisser précisément une parentalité imparfaite, en fait, dans laquelle on bricole, on tâtonne, on s'escrime à faire de notre mieux, et puis on échoue. Et ça fait partie de ce qui construit nos enfants, de ce qui les aide à grandir. Donc, pour moi, oui, bien entendu.
Patrick Bensoussan, quand même, le discours ambiant nous rappelle sans cesse, et je vous cite, qu'être parent, c'est la galère du siècle, que vous allez en baver, être usé prématurément, et vous foncez tête baissée vers le burn-out.
Oui, oui, je crois qu'il y a quand même, là, depuis... vous le dites bien, l'aspect de la parentalité positive, tout ce qui a été développé. Moi, je croyais vraiment que le Covid allait la tuer, la parentalité positive. Hein. Cette idée que le parent se retrouve seul avec son enfant à faire l'école, à faire à manger, à s'occuper de son homme ou de sa femme, à gérer tout ça en même temps pendant confiné dans un petit appartement, je pensais que ça allait être fini, quoi, qu'on en sortait en disant non, c'est plus possible. Mais on voit qu'il y a ce discours qui continue à venir, mais vraiment de façon très fracassante, hein, pour vous dire oh là là, mais c'est terrible d'être parent, ça va être épuisant. On parle du burn-out depuis quelque temps, on parle des modes d'harcèlement, on parle des enfants tyrans, on parle des enfants rois. Enfin, on a l'impression que si on appuie sur le bouton, on va se retrouver dans une histoire dramatique et sans fin.
Mais pourtant, docteur Patrick Bensoussan, il existe bien ce burn-out parental qui touche notamment les femmes avec cette fameuse charge mentale. J'imagine que dans votre cabinet de pédopsie à Marseille, vous recevez des parents qui sont épuisés et qui se considèrent peut-être en burn-out parental.
Oui, oui, bien sûr. Mais le burn-out, il est surtout maternel. Hein. C'est quand même quelque chose qui est aussi important à notifier. C'est malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qui est évoqué à longueur de temps, les femmes continuent à avoir, comme les chats, au moins cette vie, à devoir gérer l'entièreté de leur quotidien, les tâches ménagères, les tâches domestiques, les enfants, les problèmes des enfants, l'école, etc. etc. Donc, on n'a pas l'impression vraiment, malgré tout ce qu'on dit à longueur de temps, hein, qu'on ait beaucoup avancé dans ce champ-là, et bien entendu, il y a un moment donné où trop c'est trop.
Benjamin Muller.
Oui, je pense qu'il ne faudrait pas non plus donner l'impression que tout ce qui est dit ne sert à rien. Je pense qu'il faut quand même parler du burn-out. Moi, j'ai été très longtemps dans l'émission La Maison des Maternelles, et donc dans cette émission de France 2 qui parle de ces sujets, on recevait... Alors, ce n'est pas vous, qui êtes, vous êtes médecin, vous recevez des gens en vrai, etc. Mais donc, j'en ai croisé des dizaines et des dizaines de femmes, vous avez raison, hein, jamais d'hommes, épuisées au bord du burn-out, seules, qui n'avaient pas forcément de famille pour venir les aider. Donc, je pense quand même que c'est utile d'avoir des témoignages, de faire une émission comme aujourd'hui on fait pour dire oui, il y a des côtés qui sont difficiles. De là à dire que c'est la peine de mort, non. Mais une fois encore, tout est dans la nuance, et je voudrais pas non plus qu'on donne l'impression que arrêtez de vous plaindre, ça va, vous avez pas dormi de la nuit, tout va bien se passer. C'est plus compliqué, je pense, quand même.
Clara Georges.
Oui, je trouve peut-être ce qui peut être intéressant, c'est aussi de remettre en perspective comment on en est arrivé à ce stade-là, c'est-à-dire comment les parents se sont sentis investis d'une telle charge. Et c'est pas une histoire nouvelle, ça date pas de la parentalité positive, c'est plus ancien que ça, c'est-à-dire que, en gros, depuis des années et des années, petit à petit, on a des gens qui ont une expertise clinique réelle qui se sont mis à prodiguer du conseil. Et petit à petit, ce conseil s'est transformé en marché, un marché de la parentalité qui est valorisé, qui est d'ailleurs, qui représentait, je crois, en 2020, plus de 20 millions d'euros en France, les ventes de livres autour de ce qu'on appelle le parenting.
Et dans un contexte où, selon une étude parue en 2018, elle date un peu, mais tout de même, consacrée au moral des parents, réalisée dans 29 pays dans le monde, les parents français serait parmi les plus pessimistes. Donc ce marché, il est captif. Hein.
Ah, ce marché, il est très très captif, et je pense la France a des spécificités, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que petit à petit, ce marché du conseil en parentalité a pris une place exubérante dans la vie des jeunes parents qui ont oublié de se faire confiance. Et pour moi, c'est vraiment ça ce qui s'est passé. C'est que des gens à qui on a dit d'un côté il faut envoyer son enfant dans sa chambre pendant 1 minute 20 pour qu'il se calme, et de l'autre...
Une trente, c'est beaucoup trop long ah.
Et de l'autre, surtout pas, c'est du dressage, ça va abîmer son cortex ou je ne sais quoi. Mais ils ne savaient plus du tout comment faire.
Après, il y a aussi qu'on aime, en France, on aime quand même débattre de tout. Et donc ça, ce sont des sujets passionnants. Donc oui, on met plus de passion sans doute que dans d'autres pays parce qu'on aime s'engueuler. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'engueule pas aussi pour savoir si c'est 1 minute 20 ou 1 minute 30. Ça fait aussi partie de notre ADN, c'est assez sain en fait de s'engueuler sur ce sujet.
Le leitmotiv de votre livre, Patrick Bensoussan, c'est « N'ayez pas peur, parents, n'ayez pas peur », pour reprendre une célèbre phrase papale de Jean-Paul II. C'est un peu ça quand même, hein. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Patrick Bensoussan.
C'est de se faire confiance, hein. C'est pas évident du tout, hein. Il faut quand même être bien assuré, il faut quand même avoir autour de soi un réseau qui soit sensiblement actif, peut-être de la famille, des amis, des réseaux sociaux, des lectures, etc. La vraie question qui se pose, hein, c'est celle que Clara George évoquait, c'est cette idée de l'évolution, hein, de nos représentations et de nos croyances, de cette assurance qu'on a aujourd'hui sur le modèle très libéral, hein. Il faut qu'on soit parfait partout. Et donc, il faut qu'on accède à une parentalité Amstramgramme, piqué-piqué et collégramme, quoi. Et ça, c'est quand même incroyablement complexe.
Et dans votre livre, Patrick Bensoussan, vous n'y allez pas de main morte, hein. Vous proposez, je vous cite, de laver à grande eau la parentalité, de savonner fort. Vous proposez donc au lecteur une grande cure détox. Je vous cite à nouveau, nettoyez votre corps et votre esprit de toutes ces recettes modernes, stressantes et polluantes qui vous promettent un avenir de parents bien heureux et comblés.
Oui, enfin ça c'est beaucoup les aspects très cliniques, hein. Moi je commence à devenir un vieux loubard de la pédopsie, donc j'ai connu un certain nombre de consultations et de familles, et je voyais arriver des familles, en particulier des mères, hein, en grande détresse, parce que en gros elles avaient tout lu, elles avaient tout tenté, elles avaient respecté le cadre des ateliers, des leçons, des lectures, des podcasts, et puis au bout du compte elles n'y arrivaient pas. Et il y a quelque chose dans cette assurance-là qui demande vraiment à être soutenue. Vous savez, ce terme de soutien à la parentalité, hein, qui fait un peu galéjade d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de fondamental. On est dans une société où il y a beaucoup d'individualisme, où les gens se retrouvent souvent très seuls, très loin de leur famille, où ils sont pris par des réseaux de temps, d'activité, le travail, la gestion du quotidien. Et il faut faire en sorte de faciliter tout ça.
Clara Georges.
Oui, et je rebondis sur ce que vous dites, docteur Bensoussan. Je pense que il y a une espèce de double mouvement complètement contradictoire qui écartèle un peu les parents, c'est-à-dire que d'un côté, avec ce marché du conseil en parentalité, on leur donne l'impression qu'ils sont profanes, qu'ils ne sont pas en fait capables, experts dans leur capacité à être des parents. Mais de l'autre, les politiques publiques et en particulier les politiques de soutien à la parentalité, de manière croissante depuis des décennies maintenant, laisse penser que l'entière responsabilité du devenir des enfants repose sur les parents. Donc, dès lors, on peut être un parent compétent ou un parent incompétent, mais dans les deux cas, le devenir des enfants, c'est comme si on était des parents hors sol, comme s'il n'y avait plus de monde autour de nous, et qu'on était incapable de s'en remettre à d'autres choses, à la société, aux politiques publiques, que nous-mêmes, pour faire grandir nos enfants.
Et nous accueillons une mère presque parfaite, rédactrice en chef de Poppy et de Pomme d'Api. Gonelle Boulet, le menu de votre chronique Ma vie de parent vers 11h20.
Ah ben oui, ben moi c'est moi j'aime vivre dangereusement, donc je suis allée sur le front, j'ai demandé à mes enfants de me donner une note de parent.
Ouh là là, ça promet.
France Inter,
les gens qui font de l'éducation bienveillante.
Grand bien vous fasse.
Ils sont pas droits aux formulations négatives. Enfin, on a inventé le négatif, c'est pour l'utiliser, non? Je suis contente que tu t'exprimes, mais j'aimerais que tu le fasses de façon beaucoup plus calme. Ferme ta gueule, c'est pas négatif comme formulation.
Ali Rebi.
Et ce matin, on se demande si la parentalité idéale existe vraiment avec les journalistes Clara Georges et Benjamin Muller et avec le pédopsychiatre Patrick Bensoussan. Docteur Patrick Bensoussan, dans votre livre « Parents, on vous prend pour des cons », vous détestez cette idée de métier de parent, le métier de parent qui nécessiterait donc des compétences précises, et à savoir de quelles compétences précise s'agit-il. Vous n'aimez pas quand on parle de métier de parent.
Oui, parce que c'est compliqué de le penser comme ça. Alors, c'était une formulation très freudienne, vous savez, de l'époque très ancienne où il avait assuré qu'il y avait comme ça des métiers qui étaient impraticables, dont celui d'éduquer. Et cette idée, en tout cas, que on voit qu'aujourd'hui, la plupart des conseils en parentalité Ben, ils sont quand même assez incapables de résister à l'épreuve du quotidien. Hein. Et du coup, on développe cette idée qu'il faudrait acquérir des techniques parentales, et du coup, pour bien exercer ce métier et rendre ce job un peu plus praticable, quoi. Mais dans le même temps, on va vous dire que le métier de parent, c'est le métier le plus difficile du monde, c'est le métier le plus épuisant, etc., etc. Donc, on a sur cette nouvelle façon, en tout cas, de témoigner de cette idée que, du coup, si c'est un métier, il faut que vous alliez l'apprendre. Et donc, il faut que vous puissiez vous outiller, c'est les nouveaux termes de notre modernité, vous appareiller dans cette nouvelle fonction parentale. En gros, après, on va vous dire, ben, si vous n'êtes pas bon dans ce job-là, c'est que vous avez mal travaillé, quoi.
Benjamin Muller, votre point de vue, vous êtes l'auteur du dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé, ouais. Avec des dessins de Mathieu Sapon.
Oui, alors moi, j'emploie plutôt ce terme de métier. Mais alors, peut-être que vous avez raison, que je devrais pas. Mais en fait, moi, j'ai vu ça comme un apprentissage. Je parle à titre personnel, un apprentissage où au début, avant d'avoir des enfants, j'avais plein de grands projets. Comme tout le monde, j'ai lu Isabelle Filiosa en me disant, mais c'est extraordinaire ce qu'elle dit. Ton enfant fait une colère au supermarché. Faut se mettre à quatre pattes et lui dire, bah, mon petit chouchou, qu'est-ce qui se passe? Laisse vivre ton émotion, etc. Puis j'ai eu ma première enfant, puis je me suis rendu compte que non, en fait, il est hors de question que je me foute à quatre pattes et de ça. J'ai jeté mes livres d'Isabelle Filiosa, j'ai commencé à lire et écouter sur France Inter Caroline Goldman, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, et donc ma formation de parent, je l'ai eue avec mon... Là, en fait, aujourd'hui, j'ai trois enfants, je pense que je suis à peu près formé aujourd'hui, parce que c'est le terrain qui m'a... C'est comme beaucoup de
faire
métiers...
Faire le quatrième, t'es prêt?
Non, là, il faut se calmer. En revanche, l'auberge affiche complet. Mais rien, en fait, ce qui va nous apprendre à être parents, ben, c'est d'être parents, justement. Et donc, ces gens qui vous disent comment faire, voire même, vous savez qu'un jour, j'ai rencontré une journaliste, je ne vais pas dire son nom, mais qui a écrit tout un livre d'éducation, de conseils à l'éducation, très donneur de leçons, très culpabilisant. Je m'entretiens avec elle, vraiment je la trouve dure. Elle parlait d'un modèle de pays nordique en disant il faut faire ça, les Français vous êtes nuls, etc. Et au bout d'une heure d'échange avec elle, elle me dit qu'elle n'a pas d'enfant. Et c'est pas possible ça.
Et vous, Patrick Bensoussan, dans votre livre, vous vous en prenez aux deux opposés, à la fois à Isabelle Filiosa et à Caroline Goldman, hein.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, je m'en prends à personne, quoi.
Oui,
je viens juste témoigner de ce fait que faut arrêter. Qu'il y a un moment, il faut arrêter, quoi, de donner des conseils qui ne peuvent qu'être vécus que comme des injonctions. C'est ça qui est difficile. Qu'on prenne un peu de Filiosa, qu'on prenne un peu de Goldman, qu'on prenne un peu de Kremer, qu'on prenne un peu de Kennedy. Enfin, qu'on fasse notre cuisine personnelle. Et là-dessus, il y a aucun problème. Mais que tout à coup, les propos de cette personne-là deviennent notre bible, notre seule vérité. Et qu'il faille à la lettre près pouvoir les réaliser, ça c'est pas possible. Et on sait que la vulnérabilité du parent, c'est bien ça, c'est de s'accrocher aux choses parce qu'il y a des moments qui sont quand même bien compliqués dans la parentalité. Donc si on vous dit, voilà, pour 3 balles, on va vous vendre un truc qui va vous permettre d'avoir un enfant zen comme une petite grenouille, pétard, on va tous acheter. Hein.
Clara Georges, je rappelle que vous êtes l'autrice de Daron Daron, et j'avais pas donné le sous-titre, les tendres tâtonnements de la parentalité.
Oui, c'est vraiment tout ce que je m'efforce de faire dans ces chroniques, c'est de remettre un petit peu de douceur et d'approximation. Alors, je pars de moi, hein, dans ces chroniques, je pars de questions qui se posent à moi, et elles sont nombreuses dans ma vie de parent. Mais...
Vous avez l'honnêteté de dire, je pars du constat d'une femme blanche, hétérosexuelle, favorisée.
Oui,
vous parlez de ce point de vue-là, et vous n'êtes pas donneuse de leçons. C'est très intéressant de votre livre.
Je suis certainement pas, du moins je l'espère, pas donneuse de leçons, puisque moi-même je doute énormément. Donc oui, je dis d'où je parle, puisque c'est quand même un livre qui part de mes interrogations et qui, de ce fait, a un biais très fort et qui exclut toute une partie très importante des gens qui élèvent des enfants. Mais une des choses que je fais, c'est que je pars de mes interrogations, certes, mais je vais aller les nourrir.
Vous allez vers l'universel, tout de même.
Avec, je ne sais pas, en tout cas, je vais les nourrir avec des réflexions d'autres gens. Et donc, une des choses qui me semble essentielle à ce travail, c'est peut-être un peu contre-programmatique, mais c'est que je ne réponds jamais aux questions que je pose.
Tiens, il y a une question, par exemple, vous vous demandez si parent est un métier, s'agit-il d'un CDD ou d'un CDI? C'est assez drôle dans votre livre, cette interrogation. Est-ce que la fonction parentale, elle prend fin un jour?
Oui, bah, je pense que c'est vraiment une interrogation très importante pour moi, parce que je vois grandir mes enfants. Ils sont encore assez loin du moment où ils vont quitter la maison, enfin du moins, je l'espère, l'aîné a 10 ans. Mais il n'empêche que c'est pour moi une réflexion assez importante de savoir ce qu'il advient de nous, qui avons consacré quand même un temps important de notre vie à se préoccuper de nos enfants, le jour où ils ne sont plus là, et quel rapport on entretient avec des enfants qui sont des adultes, comment le lien se transforme-t-il. Et c'est une des choses sur lesquelles je voudrais revenir, ce que disait Benjamin tout à l'heure. C'est vrai qu'on se forme petit à petit au métier de parent, mais, enfin, en tout cas au fait d'être parent, mais c'est surtout le fait de s'adapter au changement permanent de nos enfants. D'un jour à l'autre, nos enfants nous transforment. Et c'est, je pense, ça qu'il faut garder en tête. C'est qu'on ne peut pas appliquer des recettes rigides, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains qui changeons, qui évoluons de jour en jour.
Benjamin Muller.
Et puis, une recette qui marchera avec un de nos enfants ne marchera pas avec l'autre, alors qu'on a l'impression de faire exactement la même chose. Et c'est aussi ce qui est stimulant dans l'éducation de nos enfants. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt un CDD. En tout cas, que c'est un objectif, que ce soit un CDD, c'est-à-dire qu'un bien un jour, il faudra que nos enfants prennent leur envol. Et qu'est-ce que le métier de parent, si ce n'est les préparer à prendre leur envol, a pu avoir besoin de nous, a pu nous donner de nouvelles. Je veux dire, ça voudra dire qu'on a plutôt bien réussi notre boulot.
Gonelle Boulet.
Ouais, plein de choses, ça qu'on a envie de réagir. C'est moi ce que je trouve positif dans tout ça déjà, c'est quand même, faut se le redire par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que pourquoi il y a toute cette anxiété, etc. C'est quand même partie d'une chose positive, c'est que l'enfant est conçu comme une personne. Je veux dire, revenons, moi, ne serait-ce que mes parents, mon père me raconte son enfance. Je veux dire, on se préoccupait beaucoup, beaucoup moins d'eux, beaucoup moins de leur bonheur, de leur bien-être, de ce qu'ils allaient devenir, voire avec un certain nombre de carences éducatives, de carences affectives, qui étaient quand même assez dures. Donc j'ai envie de dire, le point positif qu'on peut se redire quand même dans tout ça, c'est que c'est pas rien que l'enfant soit à ce point perçu comme une personne, avec des besoins fondamentaux, etc. Donc ça, moi, je trouve que ça reste le truc génial et positif. Le travers de tout ça, pour moi, c'est que l'enfant est devenu aussi un peu le reflet, le miroir narcissique des parents. C'est-à-dire que quand même, il y a l'idée de, quand on dit par moi ce que j'aime pas, c'est réussir sa parentalité. Il y a quand même quelque chose, et c'est là où on se retrouve avec un poids sur les épaules, c'est qu'on a l'impression que notre réussite passe par le fait que notre enfant aura fait les bonnes études, soit bien élevé, soit ceci, soit cela, bref, les critères qui vont être différents d'ailleurs chez chacun. Mais à partir du moment où notre enfant devient un espèce de reflet narcissique, là, il se passe quelque chose qui ne va plus. Et la deuxième chose, pour moi, tout est autour de la juste place de l'enfant. C'est-à-dire que, quel que soit ce qu'on choisit comme type d'éducation, à partir du moment où l'enfant n'est plus à sa juste place, et sa juste place n'est pas au centre de tout, à partir du moment où il n'a plus sa juste place, il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, on se retrouve à avoir des parents, mais on a tous vécu plus ou moins ces situations à plus ou moins grande échelle, mais on se retrouve à avoir des parents qui ne sont plus eux-mêmes, qui n'ont plus leur vie d'adulte, où tout est centré sur l'enfant.
Plus de vie de couple.
Plus de vie de couple. Effectivement, quand les enfants quittent le nid, il n'y a plus d'existence, on ne sait plus où on en est. Donc tout ça, pour moi, c'est quelle est la juste place de l'enfant? C'est ça la vraie question qui nous permet de nous construire.
Docteur Patrick Bensoussan.
Oui, enfin, moi je crois que l'enfant n'a pas de juste place, et c'est cela, c'est en cela d'ailleurs que ça qualifie bien l'enfance. L'enfance est un trouble assuré de toutes nos convictions, de toutes nos assurances. On passe notre temps à nous planter, on passe notre temps à être à côté de nos pompes, on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé
faire.
Bien sûr,
bien sûr.
Moi j'ai 4 enfants, mais je suis une mère juive constamment auprès d'eux. Ma fille part à Bali pendant 15 jours, elle ne me téléphone pas au bout de 3 jours, je suis malade, quoi. Je suis persuadé qu'elle a été enlevée. Mais plein des trucs comme ça.
Bien
donc
sûr.
Je le sais très bien, tout ça. Et dans le même temps, j'essaye de faire des tas d'efforts pour tempérer les choses et tout, mais on voit bien que... ce qui me semble, c'est vraiment très très injuste d'être parent, quoi. Dans cette idée très philosophique, hein, de la sagesse et de la justesse, parce qu'on est complètement largué.
Clara Georges, vous vous êtes souvent demandé comment font les autres mères. Le problème, c'est que les autres mères se posent aussi la question.
Oui, je pense que vraiment... Alors, j'ai hésité au moment de faire cette chronique-là, mais il me semblait assez important quand même de la centrer sur la question des mères, parce que la question se pose différemment pour les femmes, je pense. Et c'est quelque chose qui m'est tombé dessus en devenant mère la première fois. C'est-à-dire que vraiment, j'ai ressenti quelque chose qui est propre à beaucoup de mères, en France en tout cas, parce qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent différemment, qui est qu'il faut s'accomplir dans des domaines variés pour arriver à une sorte de complétude. Donc pendant un moment, j'ai couru après ça. Je suis retournée travailler, j'étais heureuse de travailler parce qu'il fallait que je m'épanouisse professionnellement. Je m'occupais de ma fille, donc je courais pour être à la crèche à la bonne heure quand même, pour l'apercevoir le soir. Le matin, je partais trop tôt. Il fallait aussi que je reste une femme bien dans sa peau, donc je faisais du sport. Et au bout d'un moment, je me suis quand même un petit peu interrogée sur le sens de tout ça et sur le fait que cette complétude après laquelle on court, c'est une illusion. C'est une illusion et qui est sans doute favorisée par la société dans laquelle on vit, mais pas exclusivement. Je pense qu'on peut quand même parvenir à s'affranchir un petit peu de cette injonction-là.
Benjamin Muller.
C'est marrant, j'ai fait exactement ce sujet sur TF1 récemment. Et donc, on parlait beaucoup de l'impact des influenceurs, des réseaux sociaux et des mères et des pères, des voisins, des voisines, où effectivement, on se compare tous. On compare nos enfants, qui fait les meilleures écoles, qui est le mieux habillé, qui arrive toujours tout propre à l'école, alors que votre enfant est un peu crado, etc. Et donc, ma théorie, c'était que c'est les réseaux sociaux qui ont décuplé ça. Et j'ai appelé ma maman pour avoir son avis. Elle m'a dit, mais mon petit vieux, quand t'étais tout petit, c'était déjà comme ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais la compétition entre mamans existait. Donc, je pense que malheureusement, on est un peu voué à être là-dedans. Je pense que la compétition entre papas arrive. Tout doucement, doucement mais sûrement, c'est ridicule à côté de ce qu'est...
Comment elle se traduit là pour le coup, Jean-Marc Muller ?
Je pense qu'il y a le... En fait, c'est dans les mêmes critères que pour les mamans, c'est-à-dire il faut réussir dans tous les domaines, il faut réussir professionnellement parlant, il faut rester sportif, svelte, mais être aussi prendre sa part dans la charge mentale, toutes des choses qui sont saines, mais du coup va avoir compétition entre quel mec assure le plus sur tous les domaines.
Gonel.
Et moi je trouve qu'en tant que parent, quand des enfants qui grandissent un peu, le truc que j'aurais envie de dire aux jeunes parents, c'est que la vie parentale, c'est pas un grand tube comme ça, non, c'est plein de petites tranches. Et en fait, moi, je trouve que je suis pareil. Par exemple, pour la première, j'étais allée professionnellement, faut pas décrocher, faut rester une femme, faut rester désirable pour ton mec, faut être bon sur tous les tableaux. Et j'ai trouvé qu'avec les derrière, avec les autres, quelque part, on apprend à se dire, en fait, il y a des silos, il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour tout. Et peut-être que je trouve que de s'autoriser, par exemple, moi, que celui d'après, me suis autorisée à faire 3 mois de bulle totale. C'est-à-dire, mais laissez-moi. Moi,
sans
cocon,
culpabilité.
Mais sans culpabilité, avec mon bébé, parce que plus jamais ça ne reviendra, ce truc-là. Et je sais que ma vie professionnelle, elle reviendra après, pour le coup. Quoi.
Parce que le sentiment parental par excellence, Benjamin Muller, c'est la culpabilité. Hein. Il y a une entrée culpabilité dans votre livre.
Hein. Mais je voulais qu'il n'y ait que cette entrée, en fait. Franchement. Mais oui, parce qu'on culpabilise dans tout. Peut-être que là, moi, je donne l'impression, en parlant, d'être sûr de moi. Mais moi aussi, je ne fais que douter. Chaque moment où je vais privilégier mon travail plutôt que mes enfants, je vais culpabiliser. L'inverse, quand je vais être plus avec mes enfants, pas forcément répondre à un truc de boulot, je vais culpabiliser. En fait, on ne fait que culpabiliser. Et je pense que, enfin, je sais pas, docteur, mais je pense que c'est assez sain. Ça, j'imagine que ça veut dire que c'est assez sain. Enfin,
Patrick Bensoussan.
Que moi, s'il vous plaît.
Patrick Bensoussan.
Oui, oui, c'est la réponse entre la culpabilité et la responsabilité. Ça, c'est tout un hiatus qu'on pourrait évoquer. Mais il y a cette idée, en tout cas, que tout le commerce autour du parenting qui était évoqué tout à l'heure a bien comme support cette culpabilité. On a évoqué aussi l'effet de comparer incessamment les enfants, notre gestion de nos quotidiens, etc., entre les uns et les autres. Mais c'est bien aussi parce qu'on sait rien, parce qu'on a besoin de savoir, parce qu'on a besoin de connaître. Parce que, comme vous le disiez, c'est bien par l'expérience qu'on apprend à devenir parent. Hein, et que cette parentalité, quand elle s'exerce, elle commence à un moment donné où on bafouille, on est juste là, très précaire. Et puis, au fur et à mesure, on en prend un peu plus d'expérience et encore un peu plus. Et ça continue. Moi, je serais assez tenté de penser qu'on est parent à vie dans cette histoire-là. Qu'à longueur de temps, vous savez, comme dans le souffle et la respiration, quoi, on est constamment confronté à ces réalités. Hein. Moi, je le disais tout à l'heure, un vieux machin, quand j'appelle ma mère qui est encore vivante, elle me dit « Allô, mon petit cœur, alors comment tu vas ?» Et à chaque fois, je suis là, mais « Maman, ça va, c'est bon, quoi. »
Bon. Bienvenue au club. quelques pistes pour alléger la culpabilité, Benjamin Muller. Je les ai puisées dans votre livre. Accepter l'imperfection.
Ouais.
Se donner du temps, accepter l'aide, accepter de se faire aider.
Oui, je pense que nombreux sont les parents qui ont cet objectif de perfection, objectif 20, hein, je crois qu'on l'a dit, mais ont quand même cet objectif en se disant « moi je ferai mieux que les autres », et donc refusent de demander de l'aide à leurs parents, refusent d'aller dans les PMI où il y a quand même des réseaux partout en France. Je veux dire, il y a une PMI, je crois que c'est maximum 20 minutes de route, en gros dans 90% du territoire français. Dans les PMI, vous pouvez aller vous demander de l'aide à des assistantes sociales, des puéricultrices, des médecins. Il y a énormément d'aides possibles, autres que ceux dont on parle. Il y a un débat intellectuel sur la parentalité. Et il y a aussi la vraie vie. Et je pense qu'il faudrait pas, que les gens se coupent des conseils des gens qui peuvent vous aider quand même. Il y a quand même des gens qui sont là pour ça.
Aide Patrick Bensoussan des psys et des pédopsies, mais vous dites dans votre livre, il y a de l'abus à généraliser à la France entière ce que l'on voit et traite dans son bureau de consultation. Pour vous, il faut se méfier des ordonnances collectives.
Ben oui, quand même. Enfin, le travail, ce qu'on a à longueur de temps évoqué, hein, c'est la singularité de la clinique. C'est le rapport avec un sujet qui est inscrit dans une histoire, dans une culture, dans une éducation. Parce que là, on évoque cette formulation autour de la parentalité et du parent, mais on a l'impression qu'on laisse de côté tout ce qui fait le réel de cette personne qui, à un moment, est devenue parent. D'où elle vient, où est-ce qu'elle habite, est-ce qu'elle a une heure et demie de trajet à faire le matin pour partir bosser, est-ce que son job l'intéresse, est-ce qu'elle est passionnée, est-ce qu'elle s'emmerde dans sa vie, est-ce qu'elle s'emmerde dans son couple, est-ce que... Enfin, c'est... L'entité parent en soi n'existe que grâce à l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, du coup, il faut qu'on soit aussi attentif à toutes ces données pour pouvoir comprendre ce qu'est un parent. Les parents qu'on rencontre, eh ben voilà, ils ont tout ça, ils viennent avec tout ça, mais ça ne veut pas du tout dire que l'autre qui est à côté ou qui viendra jamais... Ils partagent exactement les mêmes éléments.
Et Patrick Bensoussan, vous invitez les parents à ne pas se laisser confisquer leur savoir par, je vous cite, la médecine, les experts autoproclamés, les coachs de vie, les spécialistes petite enfance. Libérez-vous des discours, des écoles, des shows séduisants et des théories magiques.
Oui, vous savez, ça c'est le modèle très winnicottien. Winnicott, qui était ce pédiatre et psychanalyste du siècle dernier, hein, il disait, mais vraiment dans ses conversations aux parents, il y a un livre qui reprend cette thématique, il disait, mais ayez confiance en vous, estimez-vous, croyez en vous, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit à longueur de temps, celui ou celle qui sait sur vos enfants, c'est vous. Et bien entendu, vous pouvez enrichir ce savoir, mais on l'a dit, hein, c'est par l'expérience qu'on apprend beaucoup. Donc, il y a un socle expérientiel majeur.
Et vous recommandez, Patrick Bensoussan, vous recommandez de pratiquer entre parents le schmoozing yiddish, cet art immémorial où l'on discute de tout et de rien avec légèreté, intelligence, bienveillance et civilité. Racontez-nous un peu ce schmoozing yiddish à pratiquer entre parents. J'adore cette idée-là, Patrick Bensoussan.
Oui, mais parce que vous savez, c'est cette idée que le parc où on se retrouvait autour du bac à sable, et il a sensiblement disparu. Alors on évoque beaucoup cette assurance que les réseaux sociaux ont remis en avant cette possibilité, et c'est vrai, on peut se connecter n'importe quand, à n'importe quelle heure, et pouvoir avoir des conversations sur des forums, etc. Mais il y avait quelque chose dans cette rencontre-là où on parle de la pluie et du beau temps, on parle de tout ou rien, du petit déjeuner du matin, et puis en même temps on parle du gamin, et qu'est-ce qu'il a fait, ah bah tiens, moi il avait fait la même chose l'autre jour, etc. Ça permet de mettre les choses en perspective, on parle aussi de la guerre, on parle aussi de la souffrance, de la misère, hein. et on se retrouve autour de... vous savez, le Winnicott que j'évoquais tout à l'heure, il parlait de la good enough mother, la mère suffisamment bonne. Hein. Mais en gros, la traduction, c'était tout simplement à peu près potable, quoi. juste ce qu'il faut. Mais pas trop. Juste une espèce de notion comme ça, très... il faut lâcher la grappe des enfants, il faut essayer de vivre tranquille dans nos têtes, et puis... c'est quand même beaucoup plus élégant que de se prendre le chou à longueur de temps.
Pratiquons donc le schmoozing yiddish. Benjamin Muller.
J'ajouterais dans le schmoozing yiddish l'humour.
Oui.
Et bah notamment, oui. Alors, je pense que c'est tellement...
Il y a une entrée dans votre livre.
Ouais, parce que, en fait, je pense que quand même, à partir du moment où on a des enfants en bonne santé, suffisamment bons, comme dirait Winnicott, je pense que relativisons notre petite galère. Oui, on manque de sommeil. Oui, on a des petites difficultés de couple. Oui, je sais pas, la sexualité, c'est plus ce que c'était avant. Et le parc, moi, j'y vois encore, mais sans doute parce que j'habite à Paris, ou à Paris, dans les grandes villes, il y a encore beaucoup de parcs. Moi, le parc, c'est là où j'ai appris 90% de ce que je sais sur la parentalité. Parce qu'effectivement, on y va. Alors, il y a les parents qui parlent que de leurs enfants. Il faut les fuir. Parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et il y a les autres avec qui, effectivement, on peut parler un petit peu d'actualité, on peut parler un petit peu de la guerre. Et puis, de temps en temps, dire du mal de nos gosses. Avec humour, bien sûr. Mais dire, c'est quand même vrai qu'ils sont chiants. Et ça fait du bien de l'entendre.
Clara Georges.
Oui, alors moi, je déteste le parc. J'ai vraiment une haine viscérale des aires de jeu parisiennes. Pour les pigeons, mais aussi pour la vie sociale qui existe.
Il y a un écosystème.
Il y a vraiment un écosystème.
Il y a une étude sociologique des parcs à faire.
Donc, je suis de ces parents que tout le monde méprise parce que je garde le nez rivé sur mon téléphone. Mais c'est pour éviter justement des interactions compétitives avec des parents qui font mine de dire que tout est normal, tout en quand même glissant que leur enfant est arrivé premier au concours d'escrime.
Il finira sûrement à Harvard. Alors voilà, il a que 4 ans.
Mais il est déjà bilingue.
Ouais, c'est lui.
Ouais.
Et il fait du foot. Il a été repéré au tennis.
Et vous reconnaîtrez Clara Georges, c'est celle qui lit le journal Le Monde autour du bac à sable pour éviter de discuter avec certains parents. Je rappelle quand même Donald Winnicott, qu'on cite beaucoup. C'était un psychiatre et un psychanalyste et pédiatre britannique. Tiens, à propos d'humour, il est l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants.
Après tout, pourquoi pas.
Salut. Merde.
Bon, Gonaël Boulay, après presque 4 ans de chronique parentale, vous vous dites que c'est peut-être le moment de faire le bilan.
Eh oui. Alors, j'avais déjà pris conscience depuis un petit paquet de temps que j'étais pas le parent parfait. Hein. Cette prise de conscience est venue très tôt, vu qu'avant d'être maman, j'avais été belle-mère et que déjà, j'avais pu déceler quelques petits signes avant-coureurs de mon imperfection parentale. Rapport au fait, par exemple, que je suis de très mauvaise humeur si je me réveille avant 10h le week-end. Mais bon, ça tombe bien, comme mon but dans la vie n'était pas d'être une mère parfaite façon Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives, de manière globale, je m'en tire pas trop mal avec la culpabilité. Il n'empêche que, comme pour le frottis, la mammographie ou le test du dépistage du cancer colorectal, n'est-ce pas les cinquantenaires autour de la table, s'il y en a.
Non, il
n'y
en a pas.
Non, il y a des moments où il est un tantinet responsable de prendre sur soi. J'allais dire de serrer les fesses, mais ça ne colle pas trop avec le coup du dépistage colorectal. Donc, pour se confronter à la réalité.
Vous savez que dans cette émission, il est interdit de dire du mal de Brie Van de Kamp. Parenthèse fermée. Vous avez donc demandé, Gonelle, à vos enfants de vous attribuer une note de parent. Vous avez fait ça.
Oui, j'ai fait ça. Et c'est en tremblant un peu, comme lors de la...
C'est
hyper risqué. Comme lors de la réception des notes du bac, j'ai accueilli la sentence. Donc commençons par mon fils de 11 ans.
Moi, maman, déjà, je te mettrais 8,5 sur 10 parce que t'as pas 0 parce que tu m'as pas abandonné. Et t'as 8, qui est une bonne note, parce que tu fais des très bons petits plats. Mais t'as des défauts quand même qui sont que parfois, t'es un peu désorganisé et que tu te disputes un peu avec papa parfois.
Voilà. Donc on sent l'enfant qui a le sens de la synthèse. 1, tu ne m'as pas abandonné. 2, tu me fais bien à manger. Ouais. Ça donne une maman tout à fait correcte. Voilà. Une équation sur laquelle je pourrais désormais m'appuyer en cas de doute. C'est vrai, après tout, cet enfant, je ne l'ai pas abandonné. En plus, je le régale de délicieuses lasagnes et cookies aux noix de pécan bio. Après tout, que demande le peuple? Bon, quant au point négatif, en toute objectivité, je ne vois pas du tout à quoi renvoie cette histoire de désorganisation, alors que je suis la reine du planning, de l'anticipation d'inscription aux activités du mercredi et du « attention, on part dans 15 minutes, attention, on part dans 10 minutes, attention, on part dans 5 minutes ». Mais bon, accueillons la critique pour grandir en parentalité, n'est-ce pas? Quant aux disputes entre parents, chérie, tu comprendras plus tard.
Et moi, je veux bien des cookies aux noix de pécan bio.
D'accord.
Et avec votre fille, tiens, qui est ado, ça donne quoi?
Alors bon, franchement, jouer à ce petit jeu avec un ado, je sais pas si c'est pas un peu maso, mais on va se lancer.
Donc moi, je donnerais une note de 7,5 sur 10, parce que, c'est une très bonne note, parce que on a beaucoup d'amour, qu'on a le droit de choisir les études qu'on veut faire, et qu'on mange très bien. Les points négatifs, c'est que on n'a pas beaucoup de temps pour faire des sorties à Paris et tout, parce qu'on est souvent ailleurs. Et sinon, c'est que vous êtes un peu stressé niveau scolaire quand même. Et que donc, c'est un peu stressant, oppressant, quoi.
Oppressant. Mais bon, yes. Donc là, franchement, je m'attendais tellement à pire que je suis à deux doigts de me la repasser en boucle. Mais bon, on notera donc que 7,5 sur 10, c'est une très bonne note pour notre ado. Hein. Après tout, pourquoi viser plus haut ? Mais j'entends la critique sur l'oppressante pression scolaire, donc je me tais. On retiendra également le combo gagnant amour, dose de liberté, bon petit plat, qui semble apparemment
ça
racheter.
Revient, hein.
Ça revient beaucoup la bouffe, qui semble racheter les limites drastiques de temps d'écran, de sortie et moult défauts qu'on nous ramène régulièrement. Conclusion de cette chronique, en cas de doute, quand vous ne voyez, quand rien, plus rien ne veut pas, vous visez les pâtes bolognaises, le gâteau au chocolat. Si ça ne fait pas de vous un parent parfait, ça vous assurera au moins une bonne moyenne.
Un petit commentaire autour de la table ?
Bravo, moi je n'oserais pas jouer à ce petit jeu-là. J'aurais trop peur, encore moins de l'enregistrer et de le diffuser.
Et alors, figurez-vous que nous, à la maison, on a demandé à nos enfants à quoi servaient les parents. Et donc ça donne en fait quelque chose d'assez similaire. La réponse numéro 1 des 3 enfants était à nous faire à manger, des hamburgers. La réponse numéro 2 était à payer pour notre vie, pour qu'on puisse continuer à vivre. Et la réponse numéro 3 était quand même à nous faire des câlins.
Ça fait beaucoup rire notre réalisatrice Claire Destacan qui se reconnaît beaucoup, beaucoup dans ce qui se dit autour de la table. Tous les épisodes de Ma vie de parent de Gwenaëlle Boulay à podcaster sur l'appli Radio France et à faire circuler sur les réseaux sociaux.
Ali Rebéi.
Léonard, Gaspard, Edouard.
Grand bien vous fasse.
Oh, je sais pas comment tu t'appelles. Tu restes là, s'il te plaît. Ok, l'enfant ? Tu restes au pied, hein ? Sinon, je t'attache.
Sur France Inter.
Et ce matin, on se demande si la parentalité idéale existe, avec les journalistes Clara Georges et Benjamin Muller, avec le pédopsychiatre Patrick Bensoussan. Alors, Clara Georges, dans votre livre Daron Daron, vous vous demandez si l'amitié est vraiment possible entre les parents et les gens qui n'ont pas d'enfants. Est-on condamné, une fois parent, à ne vivre qu'entre père, P-A-I-R-S
Je pense qu'il y a une période, en tout cas, dans laquelle c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a une période, donc cette fameuse période dont parlait aussi Winnicott, on parle beaucoup de lui aujourd'hui, qui est cette espèce de période de fusion, la préoccupation maternelle primaire. Bon, à l'époque, on parlait de la préoccupation maternelle. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire une préoccupation parentale primaire, qui est vraiment les tout débuts, les premiers mois de la vie de parents et d'enfants, dans laquelle, on le sait, hein, tous ceux qui sont parents s'en souviennent, on vit dans une bulle complètement hermétique. Il est extrêmement difficile de penser à autre chose, de faire autre chose, de s'intéresser à autre chose, ce qui a comme conséquence d'assécher les conversations, mais aussi de très sérieusement ennuyer les gens qui ne vivent pas la même chose que nous.
Benjamin Muller.
Oui, je pense que c'est la période qui on en sort quand même. Mais effectivement, le drame, je pense, quand on n'a pas d'enfant ou quand on n'est plus intéressé par les problématiques de couche, de sommeil, c'est d'être invité à un repas avec deux ou trois autres parents de jeunes enfants qui sont capables de ne parler que de ça. Et sous le côté un peu rigolo que peut avoir ce sujet, je pense que ça peut être un vrai problème pour les gens qui n'ont pas d'enfants, n'en veulent pas, ne peuvent pas en avoir, on connaît jamais les histoires, parce qu'en plus, du coup, c'est quoi la bonne solution ? C'est d'arrêter de leur en parler, nos enfants risquent de les saouler, mais eux vont se dire mais il m'en parle pas alors que c'est sa préoccupation, pourquoi il est gêné vis-à-vis de moi ? Il n'y a pas de bonne solution là-dessus.
Et Benjamin Muller, quand on devient parent, on s'aperçoit, et vous le racontez dans votre dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé, qu'il y a trois catégories de copains. Ceux qui sont passionnés par votre parentalité, ceux qui sont très modérément intéressés par notre parentalité, et là ce sont plutôt les gens normaux, voilà, qui s'en foutent un petit peu, et puis il y a ces copains qui savent tout mieux que vous, et on a l'impression qu'ils ont passé un doctorat en parentalité.
Et ceux-là, il faut les fuir, hein, on arrête de partir en week-end avec eux, on arrête de les inviter, parce qu'en fait ils font du mal. Là on parlait tout à l'heure de se faire confiance, je pense que ces parents-là qui existent, ces amis-là, ces copains-là, les donneurs de leçons font du mal. Moi je pars régulièrement en vacances avec des copains qui n'ont pas d'enfants, avec mes enfants, et en fait je pars avec qui ? Avec ceux qui s'en foutent. Et franchement ça se passe très bien, c'est-à-dire qu'ils voient des enfants, ils trouvent ça cool, on peut faire un petit foot, jouer aux cartes éventuellement. En revanche je ne vais pas me parler de leur histoire d'école et tout ça, et je trouve ça assez sain finalement.
Et nous accueillons Cyrine Benyounès, programmatrice de cette émission du mercredi et journaliste à J'aime lire. Alors Cyrine Benyounès, vous avez commencé à vous renseigner sur les meilleures méthodes éducatives.
Oui Ali, car même si je ne suis pas mère, eh bien je suis tante. Et donc quand je reçois de ma chère grande sœur un « ça va ?», immédiatement suivi d'un « tu fais quoi ce week-end ?», je sais qu'elle ne va pas me proposer un ciné, mais bien de garder ses deux adorables filles de 4 et 7 ans, tout un programme.
Et j'imagine que vous avez lu les livres de nos invités.
Oui, bien sûr. Et oui, bon.
Deux fois même.
J'ai aussi été sur TikTok, attirée par les hashtags éducation positive, parentalité et surtout maman Montessori. La pédagogie Montessori, on la connaît. C'est une méthode inventée par la médecin italienne Maria Montessori au début du XXe siècle. Elle vise en gros à développer l'autonomie de l'enfant en respectant son rythme de développement. Et si la méthode Montessori était bien connue des communautés éducatives, les écoles, les crèches, les assistantes maternelles, ces derniers temps, de plus en plus de parents décident de partager leur quotidien de parents Montessori sur les réseaux sociaux.
Vous avez déjà vu des enfants en pleine tempête émotionnelle qui vont se mettre par terre et s'allonger au sol. Souvent, on va dire d'eux que c'est des enfants qui sont capricieux, des enfants mal élevés, mais en fait, c'est super intelligent et c'est une super technique qu'ils adoptent pour réguler leur système nerveux.
Celle qu'on vient d'entendre, c'est Armelle, une maman Montessori aux 48 000 abonnés sur TikTok. Ses mots-clés sont tempête émotionnelle, pleurs de décharge ou encore figure d'attachement. Mais ce genre de contenu jugé trop lisse, culpabilisant ou tout simplement ridicule ne plaît pas à tout le monde. Et en réponse, sont nés les antagonistes suprêmes, les parents ghetto-souris.
Ghetto-souris.
Je suis mon ghetto-souris, donc bien sûr que mes enfants, je leur ai toujours dit, si on vous tape... Vous tapez, vous aussi, vous laissez pas faire.
Donc, la contraction de ghetto et de Montessori, vous l'aurez compris, si la majorité de ses parents montrent juste une éducation un peu plus à l'ancienne, comme on dit, en reproduisant des schémas qu'ils ont eux-mêmes vécus, certains, les plus extrêmes, sont pointés du doigt pour leur banalisation de la violence. Au final, moi qui suis juste une tata un peu tiraillée entre les deux côtés de la force, je voulais demander à nos invités déjà ce qu'ils pensent de ce genre de contenu, mais aussi comment créer un équilibre entre l'injonction à la bienveillance et la réalité du quotidien.
Benjamin Muller.
Je trouve que le hashtag ghetto-souris a plutôt fait du bien. Évidemment, là, l'extrait qu'on a entendu, qui sous-entend « il faut apprendre la loi du talion, on te tape, tu retapes », je suis pas sûr. Mais il y a aussi plein de gens qui, avec humour, ont juste dit « moi, ça suffit, les injonctions, ta tempête émotionnelle, et on a le droit de gueuler un coup sur nos enfants, ça fait pas de nous des tyrans ». Et effectivement, il s'agit pas du tout de légitimer la violence,
bien sûr.
Parce que là, du coup, ce serait extrême.
Docteur Patrick Bensoussan.
Oui, c'est assez rigolo d'avoir là encore un clivage très franco-français, quoi. On a les pour, on a les contre, on passe notre temps à être sur cette espèce de ligne de crête incessante. Il faut toujours prendre parti, il faut toujours être d'un côté et pas de l'autre. Alors qu'on se rend compte, et on le dit depuis tout à l'heure, la parentalité, c'est un espèce de truc sinueux où on essaye de bricoler au quotidien, avec les expériences du quotidien. Moi, j'ai été intéressé par l'idée des notes, là. Vous savez, en ce moment, il y a cette grande polémique sur l'idée que Google va désactiver les notes des établissements scolaires, parce qu'on pouvait noter les écoles et noter les profs, et là, à partir de la fin du mois d'avril, ça va être impossible, quoi. Et on se rend compte qu'on est appelé à tout noter, quoi. On est dans un monde où on a cette espèce de mode de fonctionnement. On note la bouffe, on note les restos, on
les
note
médecins,
les
hôtels.
Les médecins, même.
Même les médecins, les hôpitaux, les cliniques, enfin... mais on sait très bien qu'en fonction, moi je sais très bien qu'à un moment donné je vais poser les mêmes questions à mes enfants. Si on sort d'une histoire conflictuelle ou autre, j'aurai 0,5. Et un autre moment,
je me suis arrangée pour la poser au bon moment.
Après les lasagnes,
après le gâteau au chocolat. Un mot de conclusion.
Stratégie parentale.
Alors, Georges.
Ah ben moi je pense que tout ce qui a été dit est vrai. Il faut réhabiliter le bricolage.
Ouais, le bricolage.
Bricolage parental.
Et halte aux injonctions. Il y en a 10 injonctions dans votre livre, Benjamin Muller, des injonctions du genre tu dois allaiter à tout prix, un bon parent ne laisse pas pleurer son bébé, un bon parent sait toujours quoi faire, il faut qu'un bébé fasse ses nuits rapidement, l'enfant doit être propre avant l'âge de 3 ans, ton enfant doit être stimulé en permanence,
wow. On fuit, hein, tout ça, et donc vous demandez un mot de conclusion. La question de début de l'émission, c'était existe-t-il un parent idéal? Ma réponse sera toute simple. Non.
Oui, c'est un peu la réponse induite par
J'ai l'impression
ce titre
qu'on est tous d'accord sur une chose. Non.
Et heureusement.
Clara Georges.
Et heureusement, en fait, parce que ce serait terrible, un parent parfait. Imaginez ce que ça donnerait pour les enfants d'avoir un parent considéré comme parfait.
Et il n'existe pas de mode d'emploi pour être un bon parent. Et Patrick Bensoussan, vous comparez la parentalité, on terminera comme ça, à un art brut, un art pour amateurs qui n'obéit à aucune règle préétablie, à aucun expert, à aucune doctrine. Fin de citation. Merci à toutes et à tous. Merci Clara Georges Daron. Daronne, les tendres tâtonnements de la parentalité, c'est publié au Seuil. Benjamin Muller avec les dessins de Mathieu Sapin, c'est le dictionnaire jubilatoire du jeune parent débordé chez HarperCollins. Docteur Patrick Bensoussan, parent vous prend pour des cons, avec un point d'exclamation, c'est publié chez RS. Merci beaucoup Cyrine Ben-Younès et Gwenaël Boulet.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.